puissants d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, 47 dirigeants européens réunis en Moldavie pour envoyer un message d'unité à la Russie de Vladimir Poutine. Mais avec ce sommet, les Européens veulent aussi faire preuve de solidarité avec la Moldavie, ce tout petit pays aux portes de la guerre qui partage 1000 km de frontières avec l'Ukraine et est candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Pour ce pays, l'un des plus pauvres d'Europe, accueillir ce deuxième sommet de la communauté politique européenne est donc un enjeu politique, mais aussi logistique. Étienne Bouche a visité pour nous le domaine où sont réunis les dirigeants européens.
Welcome to Mimi Castle, to the first and only winery castle in our country.
Les habitants de Bulboaka se réjouissent. Une gare rénovée, de nouveaux trottoirs. Grâce à la tenue de l'événement, leur village a connu de grands travaux. C'est ici, à une trentaine de kilomètres de l'aéroport de Chișinău, que 47 chefs d'État sont attendus. Ils rejoindront le Castel Mimi à bord d'un train spécialement affrété. 300 membres de délégation, plusieurs centaines de journalistes. Entre les questions logistiques et les mesures de sécurité, l'organisation de ce sommet est un défi pour la Moldavie. Initiée par Emmanuel Macron, la communauté politique européenne entend renforcer le dialogue entre l'ensemble des pays européens. L'occasion pour Chișinău de faire valoir sa volonté de s'arrimer à l'Union européenne. Adrian Trofim est le directeur général du Castel Mimi.
Je peux me tromper, mais en tant que citoyen moldave, il me semble que d'un point de vue politique, c'est l'événement le plus important depuis l'indépendance de la République de Moldavie. Alors bien sûr, nous sommes heureux de l'accueillir.
Le château a été bâti à la fin du 19e siècle par Constantin Mimi, le dernier gouverneur de la Bessarabie, alors province de l'Empire russe. Le lieu devient un domaine viticole réputé et qui produit massivement durant la période soviétique. Laissé à l'abandon dans les années 90, il est racheté et rénové à grands frais par un entrepreneur, le père d'Adrian Trofim. Les travaux ont été achevés en 2016. On y organise depuis des séminaires et des réceptions mondaines. La direction ne croit pas à de réelles retombées économiques pour sa marque, mais la Moldavie entend bien promouvoir son trésor national. Les spécialistes le savent, son vin est réputé et remporte des prix sur les salons internationaux. Le pays fait partie des 20 plus grands producteurs au monde.
Voilà près de 20 ans que le chef sécessionniste Milorad Dodik dirige l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, un petit territoire qui s'enfonce dans un système de plus en plus autoritaire. Après des violences à l'encontre de militants LGBT+, le dirigeant ultranationaliste, qui s'est difficilement maintenu au pouvoir aux élections d'octobre, a aussi lancé des projets de loi liberticides. Une dérive qui inquiète dans le contexte de la guerre en Ukraine, surtout que le président de la République serbe de Bosnie est l'un des rares dirigeants d'Europe à revendiquer sa proximité avec Vladimir Poutine. Le reportage de notre correspondant Louis Seyé.
Responsables d'ONG, journalistes ou militants des droits humains, ils sont de plus en plus pris pour cible par les dirigeants de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine et par leurs sympathisants. Journaliste Vajna Stokic a été plusieurs fois menacé de mort pour ses engagements.
Ces derniers temps, l'atmosphère en République serbe de Bosnie est devenue très dangereuse et inflammable. Les plus hauts responsables, comme le président de la République Srpska, Milorad Dodik, s'en prennent nommément aux gens et les désignent ainsi comme des éléments indésirables. Une enquête récente menée ici, en République Srpska, a montré que plus de 70% des gens pensent qu'il est normal de frapper des journalistes.
Des coups, la journaliste en a reçu il y a 2 mois quand un groupe de hooligans s'en est pris aux militants LGBT qui préparaient la tenue d'une conférence. Présente au moment de l'attaque, la police a refusé d'intervenir. Quelques jours avant, Milorad Dodik, mais aussi le jeune maire de Banja Luka, s'était opposé à l'événement, présenté comme une atteinte aux valeurs familiales. Selon Ivana Korajic, directrice de Transparency International en Bosnie-Herzégovine, ces discours de stigmatisation sont devenus la norme ces dernières années.
Tous les acteurs de la société civile sont présentés comme des agents étrangers et des espions qui s'en prennent au système et aux valeurs traditionnelles. Et le résultat de toute cette machine de propagande s'est soldé par cette attaque directe des militants LGBT par un groupe de hooligans. Une agression physique qui a très probablement été instruite par les autorités elles-mêmes.
Au pouvoir depuis bientôt 20 ans, l'ultranationaliste Milorad Dodik est un habitué des provocations. Menaces répétées de sécession et d'union avec la Serbie, négation du génocide de Srebrenica. Ces dernières semaines, le président de la Republika Srpska a lancé des projets de loi particulièrement controversés, comme criminaliser la diffamation ou bien interdire aux membres de la communauté LGBT d'approcher des établissements d'éducation. Une dérive que certains qualifient de poutinienne. Il faut dire que depuis le début de la guerre en Ukraine, Milorad Dodik est l'un des seuls dirigeants d'Europe à avoir rencontré Vladimir Poutine.
Si l'on tient compte des liens de plus en plus étroits entre Milorad Dodik et Orban et Poutine, il est clair qu'ils s'inspirent de leur modèle pour élaborer ici un type de régime dictatorial qui lui permet de régner indéfiniment et de garder le pouvoir le plus longtemps possible. C'est le seul but de tout cela.
Les 7500 ONG actives en Republika Srpska s'inquiètent surtout du projet de loi visant à qualifier d'agents de l'étranger les organisations recevant des financements d'autres pays. En Bosnie-Herzégovine, la quasi-totalité du secteur associatif dépend du soutien des partenaires étrangers. Et leurs projets sont souvent les seuls qui ont permis au pays de dépasser les divisions et d'avancer après la terrible guerre des années 90. Ratko Pilipovic est l'expert légal du Centre pour l'environnement, l'une des plus anciennes ONG ici en RS.
Malheureusement, cette loi ne peut que susciter la méfiance et ternir un peu plus l'image des ONG et de la société civile. Elle risque de nous ramener à la même situation qu'au début des années 2000. Comme c'était le cas avec la précédente génération, il va falloir réexpliquer à quoi servent les ONG et que ces organisations existent parce qu'elles sont bénéfiques pour la société et qu'elles permettent des choses que les autorités n'arrivent pas à faire.
Alors que l'ARS est endettée et que l'inflation atteint des sommets, certains experts estiment que la dérive actuelle vise surtout à cacher les difficultés économiques et faire taire les oppositions grandissantes. Mais alors que la guerre a fait son retour en Europe, la journaliste Vajna Stokić s'inquiète du jeu dangereux mené par le dirigeant bosno-serbe.
C'est justement ce sentiment de peur chez les citoyens qui convient à Milorad Dodik, car il peut jouer avec eux comme s'ils étaient des marionnettes. Mais je crains qu'en cas de conflit, ces mêmes personnes puissent être manipulées et qu'elles puissent aller jusqu'à se faire tuer en pensant qu'elles luttent pour une grande cause et qu'elles défendent leur pays et leurs concitoyens, alors qu'en fait, elles ne se battront que pour les intérêts d'un seul homme.
En divisant un peu plus la société bosnienne, Milorad Dodik joue, comme ses adversaires ethno-nationalistes bosniaques et croates, avec les rancœurs et les plaies mal cicatrisées des 3 millions de Bosniens. Terminée il y a 27 ans, la guerre de Bosnie-Herzégovine a fait plus de 100 000 morts et 2 millions de déplacés.
C'est un problème chronique en Allemagne. Le personnel qualifié est difficile à trouver et à embaucher. Le patronat allemand estime ainsi à 2 millions le nombre d'emplois vacants. Les raisons, le vieillissement de la population et des jeunes générations en quête de bonnes conditions de travail. Pour tenter d'y remédier, le gouvernement a récemment légiféré afin d'ouvrir les portes à l'immigration choisie et tous les secteurs sont concernés, car même les services secrets ont du mal à séduire de nouveaux candidats. Depuis Berlin, les explications de Julien Méchaussi.
Semaine de 4 jours, offre de formation continue, congé sabbatique, télétravail. Les patrons allemands recourent à tous les moyens pour séduire de nouveaux employés. Mais parmi ces patrons, il y en a un qui a bien du mal à rivaliser. Bruno Kahl, le chef du BND, le service fédéral de renseignement. À la tête de 6500 employés, le directeur des services secrets allemands a récemment déclaré ne pas pouvoir offrir les conditions tenues aujourd'hui pour acquises par les jeunes générations. Depuis la crise sanitaire, le travail à domicile s'est par exemple imposé dans de nombreux secteurs et est devenu incontournable pour les employeurs. Une condition difficilement applicable pour un agent du BND. Les risques en matière de sécurité informatique sont jugés trop élevés. Une absence de flexibilité rédhibitoire à une époque où l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est devenu une priorité. Autre barrière insurmontable, selon le patron du BND, l'interdiction de l'usage de téléphone portable personnel sur son lieu de travail, toujours pour des raisons de sécurité évidentes. Impensable de se passer de son téléphone 8 heures par jour pour la génération Z, celle née à partir de 1995. Des conditions de travail d'un autre temps auxquelles s'ajoute un environnement extrêmement concurrentiel. Les disciplines recherchées par les services secrets sont les mêmes que pour le secteur privé. Mathématiques, informatique, sciences naturelles et techniques. Avec des salaires proposés qui restent bien en dessous de ceux du monde de l'entreprise, si aucune solution n'est bientôt trouvée, il manquera jusqu'à 1000 agents secrets allemands dans les prochaines années.
Bon à scoper, bon à travailler, bon à laver, bon à lever.
Travailler, certes, mais à quel prix ? En Belgique, dans les années 70, des femmes de ménage ont licencié leur patron trop maltraitant pour travailler en autogestion. Cette histoire rocambolesque, celle des ouvrières balais libérées, du nom de la coopérative de nettoyeuses qui a officié dans les locaux de l'Université catholique de Louvain en Belgique pendant plus de 10 ans, vient d'être portée à l'écran. Un documentaire qui veut dénoncer la dégradation des conditions de travail dans le secteur du nettoyage aujourd'hui. Le reportage de Laure Broulard.
Tout commence avec une lettre. En 1975, les employés de l'entreprise Annick, qui se charge alors du nettoyage de l'UCL, l'Université catholique de Louvain, se mettent en grève. Elles protestent contre leur direction, qui souhaite réduire les effectifs et relocaliser une partie des employés sur un autre site. Mais le patron reste inflexible. Alors, avec l'aide des syndicats, elles lui écrivent pour lui annoncer qu'il est licencié.
Monsieur, tout d'abord, nous constatons après une étude approfondie de notre travail que nous pouvons parfaitement l'organiser entre nous. Nous en concluons donc que vous êtes absolument inutile et parasitaire. Nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement sur le champ pour motif grave contre vos ouvrières. Le reste de nos décisions ne vous regarde plus.
Ainsi naît le balai libéré, coopérative qui comptera jusqu'à une centaine de nettoyeurs et de nettoyeuses et qui travaillera directement pour l'université pendant 14 ans. Les décisions sont prises en assemblée générale, les bénéfices utilisés pour acheter du matériel, ouvrir un poste ou verser des primes. Un laboratoire à ciel ouvert tenu par des femmes jusque-là non politisées. Mais au début des années 90, l'université lance un appel d'offres de marché public. Le balai libéré perd le contrat au profit d'une entreprise flamande moins chère. Et c'est le retour de la sous-traitance. Une histoire méconnue, point de départ pour la réalisatrice Colline Grandeau.
Je me suis dit, pourquoi est-ce que cette histoire, on n'en parle pas plus ? Mais j'avais pas envie de faire uniquement un film tourné vers le passé. Et donc, à force de réflexion et de recherche, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le nettoyage à l'UCL Louvain ? Et alors, c'est comme ça que j'ai rencontré les ouvriers qui travaillent sur le site en sous-traitance et qui sont plus du tout en autogestion.
Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que t'as entendu parler du balai libéré ?
Je me suis dit, c'est quoi ça ? Je connaissais pas.
Je vais pas dire que je ne le croyais pas, mais je dis c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment vrai. Mais tu vois, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est nous qui avons mis notre propre patron, notre propre boss à la porte, quoi. Ah, je dis pas franchement. Chapeau.
La réalisatrice organise et filme des rencontres entre les anciennes du balai libéré et les nouveaux nettoyeurs qui lavent aujourd'hui les quelques 350 000 mètres carrés de la ville universitaire.
Ça a été extrêmement riche et finalement le passé est devenu un prétexte pour parler du présent et des conditions de travail d'aujourd'hui qui sont beaucoup plus dures. Les ouvriers sont beaucoup moins nombreux en fait. Au plus fort du balai libéré, elles étaient 100 pour nettoyer le site. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine.
C'est du nettoyage industriel, donc tu dois être capable de nettoyer autant de mètres carrés à l'heure. C'est comme à l'usine, quoi. C'est le même.
Il y a 30 blocs sanitaires par bâtiment. Il faut les faire sur le nombre d'heures qu'on a, quoi.
Et ça a toujours été comme ça ? Ou t'as l'impression qu'avant, il y avait plus de temps ?
Ça augmente, entre guillemets, chaque fois qu'il y a une nouvelle société, oui, le travail augmente.
Fatigue physique, cadence extrême, solitude au travail. La caméra suit sans commentaire le quotidien d'une quinzaine d'employés. À l'UCL, 6 entreprises ayant répondu aux appels d'offres ont déjà succédé au balai libéré, avec à chaque fois une nouvelle réduction des coûts et une augmentation de la charge de travail pour les nettoyeurs, qui sont le plus souvent automatiquement réembauchés sans réel contact avec leurs nouveaux employeurs.
C'est pas du tout que l'université de Louvain qui est concernée, c'est toutes les universités francophones, mais même au-delà de l'université. Donc c'est à Bruxelles, la STIB, la SNCB, donc les trains en Belgique, le Parlement européen, la Commission européenne. Enfin, je veux dire, c'est toutes les institutions finalement publiques font ce choix-là de passer par de la sous-traitance. Et donc, ça a des conséquences sur les conditions de travail des ouvriers et ouvrières.
En confrontant les récits et les vécus d'un même travail avec presque 50 ans d'écart, le documentaire examine ce que peut générer aujourd'hui le récit d'une lutte sociale réussie.
Ça clique, et le RGPD s'applique. Règlement 2016, sachez 7-9 en action. Donne pas son avis au CNIL, il va te mettre une bonne leçon. Et si tu recherches ta data, tu la trouveras peut-être par là-bas.
Le Règlement général de la protection des données, plus connu sous l'acronyme RGPD. Cela fait 5 ans qu'il est entré en vigueur, c'était le 25 mai 2018, avec pour ambition de renforcer la protection de la vie privée des citoyens. Clémence Pénard, bonjour.
Bonjour Léa Lisa.
Votre robe du net aujourd'hui, après 5 années d'application, l'heure est donc au bilan.
Et juste avant de souffler sa 5e bougie, le RGPD s'est vu offrir un joli cadeau, l'amende la plus importante jamais imposée depuis son entrée en vigueur. Il y a une semaine, Meta a été condamné à 1,2 milliard d'euros. Une amende record infligée par la Data Protection Commission, le régulateur irlandais de la vie privée, justifié par les transferts de données des utilisateurs européens de Facebook vers les États-Unis. Transfert auquel la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp continue de s'adonner malgré des avertissements répétés. En janvier déjà, la multinationale s'était vue signifier une douloureuse amende de 390 millions d'euros, motivée cette fois-là par son ciblage publicitaire.
Et ces sanctions, Clémence, sont donc le résultat de ce fameux RGPD.
Oui, en fait, avant 2018, chaque pays européen avait sa propre législation sur les données personnelles. En France, on avait la loi informatique et liberté de 1978. Il y a eu quand même des amendements à cette loi, mais avec l'explosion d'Internet, il est clair que le cadre législatif était complètement dépassé. Donc, en 2018, après 6 ans de lourdes tractations, le règlement européen sur la protection des données établit enfin une nouvelle norme en matière de respect de la vie privée. Et depuis, le RGPD, en réalité, une multitude de règles sur le stockage des données personnelles est devenue le standard mondial. Plus de 70 pays ont adopté des textes similaires au RGPD.
Mais alors la question que tout le monde se pose, c'est évidemment, est-ce que ces règles sont appliquées par les entreprises et ces amendes records, est-ce qu'elles sont payées, Clémence?
Alors en France, la CNIL a prononcé plus d'un demi-milliard d'euros d'amendes entre 2018 et 2022. Mais sont-elles payées? C'est tout le problème. Ces montants masqueraient en réalité certaines lacunes. Un bilan en trompe-l'œil selon Max Schrems, activiste autrichien, fondateur de l'association NOIB, None of Your Business, comprenez, ce ne sont pas vos affaires.
La réalité, c'est que dans la plupart des pays, il n'y a pas d'amende aussi importante. D'abord, beaucoup de ces amendes ne sont pas payées, elles font généralement l'objet d'un appel pendant des années et des années. Donc, ces 2 ou 3 grosses amendes par an qui font le tour des médias, c'est bien pour les gros titres, c'est bien pour les autorités qui prétendent que des mesures ont été prises. Mais en vrai, pour une entreprise comme Google, une amende de 15 millions d'euros, c'est risible, sans pertinence. Si vous faites des milliards en traitant des données personnelles et que vous payez quelques millions d'amendes, vous pouvez aussi tout simplement considérer cela comme une taxe sur vos bénéfices.
Ainsi, en dépit de quelques condamnations sévères, les géants technologiques peinent à se discipliner et à respecter scrupuleusement le RGPD. Et d'autres défis s'ajoutent. L'évolution rapide des technologies telles que l'intelligence artificielle, ça pose de nouveaux problèmes en matière de protection des données.
Et l'Union européenne l'a bien compris.
Oui, plusieurs textes européens sont venus compléter le droit des données personnelles, à l'exemple du DSA ou du DMA. Et plus récemment, un autre texte a fait parler de lui, le AI Act, pour encadrer donc l'intelligence artificielle, vous l'aurez compris, qui évolue à vitesse grand V.
Merci Clémence Pénard. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Tour du Net.
À la semaine prochaine.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous à toute heure sur notre site internet ou en podcast. Abonnez-vous et sinon, à demain, même heure.